Il est 7h.
J'aime ce genre de match, ça m'a pas toujours souri, mais voilà, j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif.
Kylian Mbappé décisif hier soir, doublé sous la neige à Munich et une victoire 3-2 qui place le PSG en bonne position pour accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. Le lien reconnu entre de rares thromboses et le vaccin AstraZeneca, un sérum qui suscitait déjà la méfiance entre annulation de rendez-vous et petits arrangements pour l'éviter, vous allez l'entendre. Des smartphones aux voitures, les ambitions réaffirmées des géants du numérique en matière de mobilité, les Apple, Google ou Amazon finiront-ils par croquer les constructeurs auto, le dossier de la rédaction d'Europe 1 dans un instant. Dans ce journal, le gouvernement divisé sur la proposition de loi autorisant l'euthanasie, discussion aujourd'hui à l'Assemblée, et puis la carte et le territoire, où quand une pierre vieille de près de 4000 ans se révèle être une carte d'un territoire breton, sans doute la plus vieille carte d'Europe. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Le télétravail aura été la révolution de cette année de crise. Va-t-il s'installer durablement dans le paysage? Pas comme on le croit.
Suivi du regard international de Vincent Hervouet, de Édito Sport de Virginie Fulpin, et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Mais d'où vient l'expression « tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux » ? Vous allez voir, c'est très 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 ancien.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tenant du titre, invaincu en Europe depuis 2 ans. L'ogre munichois terrassé hier par le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés 3-2. Une victoire que vous nous avez fait vivre sur Europe 1. Julien Froment, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné de la voix hier, on l'entend un peu ce matin. C'est un exploit, il faut dire, qu'ont accompli les joueurs du PSG sur la pelouse du Bayern.
Oui, ce matin, les supporters doivent justement avoir autant de voix que moi, car ils ont dû passer par toutes les émotions. Match vraiment incroyable du Paris Saint-Germain avec un scénario fou. L'euphorie, tout d'abord, ce but de Mbappé dès la 3e minute et puis à la demi-heure de jeu, comme dans un rêve, la passe magique de Neymar pour Marquinhos. 2-0, il ne peut rien arriver ou presque au Paris Saint-Germain. Et puis, l'inquiétude finalement quand le Bayern revient à 2-1, puis à 2-2. Le doute commence à s'installer, mais Kylian Mbappé, décidément l'homme des grandes soirées européennes, en décide autrement. 3-2, le Français chez nos confrères de RMC Sport, satisfait de sa prestation.
J'aime ce genre de match. Après, voilà, ça m'a pas toujours souri. Et peut-être que dans le futur, ça va pas me sourire encore. Mais voilà, je suis pas là pour me cacher. Et j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif.
Alors, pas d'exploit sans un immense gardien. Keylor Navas, exceptionnel. Il a stoppé 10 frappes allemandes hier. Et pourtant, écoutez la réaction de son entraîneur Mauricio Pochettino. Pas une seule seconde surpris par son gardien.
Pas besoin de répéter que Keylor est l'un des meilleurs gardiens du monde. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous.
Alors, du côté de la presse allemande, forcément, réveil difficile. Une faillite insensée pour le quotidien Bild. Mais un espoir fou qui est en train de naître pour les Parisiens avec ce 3-2. Ils ont tout d'abord 95% de chances de se qualifier pour les demi-finales. Enfin, à chaque fois que le Bayern a perdu à domicile en quart de finale, eh bien, c'était contre le futur vainqueur.
Merci Julien Froment. On espère en tout cas ne pas apprendre l'équivalent de la remontada en allemand. Rendez-vous est donné.
De toute façon, il n'arriverait pas à le dire, Julien, j'ai l'impression. Un peu de miel, Julien, un peu de miel maintenant.
Rendez-vous donné mardi prochain pour le quart de finale retour.
Des avantages toujours supérieurs au risque, mais des effets secondaires très rares qui devraient être répertoriés. Les conclusions de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca pourraient bien encore renforcer la méfiance des populations.
Malgré les chiffres, 222 cas sur 34 millions de vaccinés en Europe, les craintes restent vives et se manifestent déjà au quotidien, Johanna Chabas.
Oui, et certains vont même jusqu'à s'inventer des comorbidités. C'est le cas d'Isabelle. Cette femme d'une 50aine d'années avait trop peur des possibles effets secondaires de l'AstraZeneca. Elle s'est donc arrangée avec le centre de vaccination dans sa rue qui n'injecte que du Pfizer.
Le responsable du centre de vaccination m'appelle et il me dit, écoutez, ce que vous faites, vous vous inscrivez sur Doctolib pour passer le barrage d'accès au rendez-vous. Vous indiquez que vous avez des comorbidités. Donc j'ai pris rendez-vous sur Doctolib et j'ai reçu ma première dose Pfizer le 28 mars.
Isabelle est loin d'être un cas isolé et cette méfiance a des conséquences dans les cabinets de médecins qui vaccinent à l'AstraZeneca. Un rendez-vous sur 10 est annulé, indique Jacques Battistoni, le président du syndicat des médecins généralistes de France. Il est obligé de rassurer tous ses autres patients.
Les gens nous demandent si les effets indésirables sont fréquents, ce à quoi on leur explique qu'ils sont exceptionnels et on leur met en contrepartie le risque d'attraper la maladie. Ça prend toujours quelques minutes dans une consultation où en général on arrive à obtenir l'adhésion des patients. la plupart du temps.
Mais il insiste, aucune dose d'AstraZeneca ne lui reste sur les bras. Sa liste d'attente est tellement longue qu'il trouve toujours des patients volontaires.
Hier soir, l'Europe a appelé les 27 à parler d'une seule voix pour ne pas nourrir la défiance. C'est mal parti, en rang dispersé. Hier, l'Italie et l'Espagne ont annoncé limiter les injections aux plus de 60 ans, la Belgique aux plus de 55 ans, un seuil déjà fixé par la France. De son côté, le Royaume-Uni a instauré une première restriction pour ce vaccin aux plus de 30 ans.
C'est une information qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Emmanuel Macron s'apprête aujourd'hui à annoncer la suppression de l'ENA.
Un retour donc à un engagement pris après la crise des Gilets jaunes et un temps abandonné. Le chef de l'État qui souhaite attirer des profils plus variés dans les grands corps d'État. Une nouvelle école devrait voir le jour. L'évolution des carrières devrait aussi être revue avec évaluation systématique des hauts fonctionnaires. C'est un débat qui continue d'agiter la société et la classe politique. La question de la fin de vie de retour à l'Assemblée.
Avec cette proposition de loi portée par l'ancien socialiste Olivier Falorni, 5 ans après l'autorisation d'une sédation profonde et continue, le texte vise à créer un droit à l'euthanasie. Texte qui divise jusqu'au sein du gouvernement, Jean-Rémy Baudot.
Oui, il y a d'un côté cette ministre qui confie « J'ai promis à mon père de l'accompagner, il faut aller plus loin ». Aller plus loin, compléter la loi, c'est la volonté de plusieurs membres du gouvernement. Certains ont pris position publiquement, Emmanuel Wargon, Éric Dupond-Moretti. D'autres préfèrent réserver leur réponse, car le texte d'Olivier Falorni ne traite qu'un bout du sujet, selon un ministre. Le secrétaire d'État à l'Europe, Clément Beaune, se montre ainsi réticent. Olivier Véran affirme de son côté que la loi Claeys-Leonetti n'est pas encore assez connue et appliquée. Beaucoup réclament par ailleurs un réel débat parlementaire et citoyen, alors que les discussions aujourd'hui ne dureront que quelques heures. Consacrer aussi peu de temps à ce sujet, alors que le projet présidentiel était de s'adapter aux évolutions de l'époque, ça n'est pas un bon signal, regrette une ministre issue de la gauche. À l'Élysée comme à Matignon, on évite de prendre position. L'exécutif émettra un avis de sagesse, une pratique utilisée pour ne pas trancher. D'autant que c'est probablement la droite qui permettra au gouvernement d'esquiver un éventuel piège politique. L'avalanche d'amendements déposés par 5 députés LR anti-euthanasie devrait de toute façon compromettre l'adoption du texte d'ici ce soir.
Jean-Rémy Baudot.
7h07 sur Europe 1, l'insatiable appétit des GAFA, une nouvelle fois illustré. Cette fois, c'est vers le secteur automobile que lorgnent les Google, Amazon, Facebook et Apple. À la clé, des constructeurs obligés de s'adapter, c'est le dossier de la rédaction ce matin. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste auto. Les partenariats se multiplient entre les constructeurs traditionnels et ces géants du numérique. C'est devenu indispensable pour ces grandes marques automobiles.
Ah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, ce qui a le plus de valeur dans une voiture, je ne sais pas si la réponse là, va vous venir spontanément,
mais c'est la data.
Ça, c'était peut-être avant. Et les données embarquées, donc les services connectés quand vous utilisez la navigation ou encore quand vous écoutez de la musique ou évidemment Europe 1 via une application de votre smartphone, mais aussi les technologies du cloud, donc concrètement pour faire simple, pour améliorer les aides à la conduite. Voilà pourquoi Volkswagen a signé un partenariat avec Microsoft et vous avez aussi un accord entre Amazon et Toyota et puis entre Renault et Google.
Mais c'est pas dangereux pour les constructeurs? Renault, par exemple, ne risque pas d'être englouti par Google?
Ce qui est sûr, c'est que comme les autres constructeurs, ils doivent réagir vite. Je vous donne un chiffre pour comprendre le rapport de force. En bourse, une entreprise de tech est valorisée 100 fois plus qu'un constructeur automobile. Et le directeur général de Renault, Luca De Meo, l'a bien compris. Écoutez ce qu'il disait lorsqu'il a présenté son plan stratégique.
La boîte pourrait éventuellement pivoter. Renault, on va en faire un constructeur de voitures profitables qui intègre de la tech. On veut le tourner en une entreprise technologique qui intègre des véhicules.
Et ce partenariat Renault-Google va se renforcer. La Mégane e-Vision sera dans quelques mois la première voiture avec le système d'exploitation Android intégré. Plus besoin donc de se connecter via son téléphone.
Alors sauf que les Google Car ou les Apple Car, on les attend toujours. Aurélien, ça ne s'improvise pas d'être constructeur auto.
C'est vrai que ce savoir-faire, c'est ce qui permet aux constructeurs de résister. C'est facile de construire une voiture, bien plus complexe d'en produire des millions. On l'a vu avec Tesla, pour qui cela a été très compliqué au départ et qui a même frôlé la faillite. Donc échaudés par cette expérience, les géants de la tech prennent leur temps, choisissent différents modèles, soit s'appuyer sur un constructeur historique, c'est ce qu'est en train d'essayer de faire Apple, soit c'est le choix d'Amazon, investir dans une start-up et obtenir du sur-mesure. C'est ce qu'ils font avec Rivian, explique Guillaume Kerbrat, directeur associé chez TNP Consultants.
Aujourd'hui, quand Amazon investit dans Rivian, Rivian, c'est le principal concurrent identifié à l'avenir pour Tesla. Donc on se retrouve avec un nouvel acteur, un nouvel entrant. Et donc là, on a l'Amazon Van, le véhicule autonome de livraison conduit par un employé d'Amazon. Même s'il n'a pas vocation à fournir des voitures grand public sous sa marque, néanmoins, il va mettre sur le marché des véhicules qui seront en concurrence directe avec ses partenaires.
Donc les GAFA ne vont pas devenir directement des constructeurs, ils deviendraient les donneurs d'ordre. Et preuve que cette cohabitation ne sera pas simple, le rapprochement Apple-Nissan par exemple ne s'est pas fait parce qu'Apple voulait une Apple Car, mais le constructeur japonais aurait refusé que le nom de Nissan disparaisse, risquant de passer pour un simple fournisseur.
Voilà. Et par ailleurs, au-delà des constructeurs américains, le mouvement de ces partenariats, il est aussi constaté en Chine, Aurélien.
Oui, et comme toujours, c'est spectaculaire. Il y a des alliances géantes avec Alibaba, Baidu, les Amazon et Google chinois. Dernier exemple en date, le fabricant de téléphones portables Xiaomi, qui vient d'annoncer un investissement de 10 milliards de dollars d'ici 2030 sur les voitures électriques.
Dossier de la rédaction signé Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Instaurer des quotas de meublés touristiques à Paris, la mairie souhaite reprendre l'une des propositions issues de la consultation récente de 26 citoyens. Une étude de faisabilité sera lancée, hein, pouvant aller même jusqu'à l'interdiction de ces locations dans certaines zones tendues. Ce serait illégal, a réagi dès hier la plateforme Airbnb.
C'est une pierre vieille de plus de 4000 ans qui dormait dans un coin du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Une dalle de 2,20 m sur 1,53 m. Plus de 100 ans après sa découverte, elle vient de révéler un trésor.
Une dalle qui serait en fait la plus vieille carte géographique d'Europe. Lors d'Autriche, certaines des inscriptions mystérieuses qui ornaient cette dalle ont pu être interprétées.
Oui, cette carte est couverte de curieux symboles, des cercles, des lignes droites, des motifs en forme de pommes de terre. Impossible à décrypter pour le Breton qui a découvert il y a 100 ans cette dalle gravée. Mais aujourd'hui, les chercheurs pensent que cette carte laisse entrevoir une vallée entre les montagnes et les collines. En la comparant aux cartes actuelles de cette région du Finistère, Eureka, cela correspond à 80%. Mais cette carte, il y a 4000 ans, ne servait pas à s'orienter, explique Clément Nicolas, archéologue.
La région paraît divisée en plusieurs territoires. Et là, on peut imaginer que c'est la carte d'un de ces territoires, d'un prince ou d'un petit roi de l'époque. Et que cette carte servait à affirmer l'autorité de ce pouvoir politique.
Mais certains motifs gravés restent mystérieux. On ne sait pas ce que ces hommes de l'âge du bronze ont voulu inscrire dans la pierre. Les chercheurs vont rechausser leurs bottes et retourner sur le terrain.
Les merveilleux récits de l'or d'Autriche pour Europe 1.
Vous avez déjà essayé de plier, déplier une carte routière, Marion Calais? Imaginez la dalle là, de 2 mètres sur 1,50 m. Merci beaucoup, Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un coup de gueule tout à l'heure avec une voix que vous connaissez. La journaliste Françoise Laborde, auteure du livre Les Indésirables, Enfants maltraités, Les Oubliés de la République, c'est aux éditions Michelon, les violences intrafamiliales hein, en temps de confinement. Le texte aussi contre les violences sexuelles sur mineurs, l'aide sociale à l'enfance. Françoise Laborde, on en parle. Le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, bonjour, on va parler du Sofagate. C'est une vidéo turque, un scandale européen qui nous fait honte à tous.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le confinement a fait exploser la pratique du télétravail dans tous les pays. On a même parlé de révolution. Mais est-ce que le télétravail va s'installer durablement dans le paysage?
Alors c'est ce que voudrait sans doute une grande majorité de salariés, mais du côté des employeurs, c'est beaucoup moins évident. Il y a ceux qui ont sauté le pas, qui se sont très bien adaptés à cette nouvelle organisation du travail, et puis il y a ceux plus nombreux qui restent très méfiants. Un sondage réalisé par Via Voice pour l'exploratoire Sopra Steria révèle un monde de l'entreprise vraiment complètement coupé en deux en fait. 80% des patrons des grandes entreprises de plus de 1000 salariés sont prêts à ce que le télétravail entre durablement dans les mœurs, mais 77% des patrons de PME de 20 à 99 salariés ne veulent pas faire télétravailler leurs salariés.
Ce n'est pas un clivage là, c'est un fossé.
C'est un fossé carrément, et c'est d'ailleurs inquiétant parce qu'en sortie de crise, dans quelques mois, coexisteront en quelque sorte un monde d'avant et un monde d'après, et les écarts vont se creuser entre les entreprises mais aussi entre les salariés, entre ceux qui appartiennent à un grand groupe, qui ont pu télétravailler pendant la crise, qui en ont pris l'habitude, qui disposent des infrastructures et des outils numériques pour le faire, et puis ceux qui peut-être aimeraient bien bénéficier des mêmes souplesses mais ne pourront pas. On le sait, cette année de Covid a accéléré la digitalisation des entreprises, Mais celle-ci est très inégale en fonction de leur taille. Il y aura les gagnants du Covid qui auront gagné un environnement de travail plus attractif et cela risque de creuser une ligne de fracture au sein du monde du travail.
Oui, vous dites que l'organisation du travail sera aussi encore plus qu'avant un élément d'attractivité.
Bien sûr, les salariés sont très majoritairement demandeurs de télétravail, donc ils iront plus facilement vers des entreprises qui ont mis en place des accords favorables du type 2 jours, voire 2 jours et demi par semaine. Ce sera aussi un élément de rétention des talents et là encore, ça va creuser l'écart avec les entreprises les plus frileuses sur le sujet. La révolution du télétravail dont on parle tant depuis un an, c'est d'abord une affaire de grandes entreprises. Elle mettra beaucoup de temps à se diffuser à l'ensemble du monde économique. Et au fond, pour beaucoup de salariés, le monde d'après ne sera pas très différent du monde d'avant.
Merci beaucoup Nicolas Barré. Il est 7h17 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet à présent. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors connaissez-vous le Sofagate ? C'est une vidéo à méditer. Les dirigeants de l'exécutif européen, le président du Conseil et la présidente de la Commission, reçus par le président turc Erdogan dans son bureau. Surprise, il n'y a qu'une chaise pour deux. Ursula von der Leyen se laisse humilier.
Oui, on voit Charles Michel se précipiter sur le fauteuil, s'y vautrer et jeter un coup d'œil à Ursula von der Leyen qui reste plantée debout. Les deux hommes sont assis, elle pourrait protester, sans doute que le décor l'accable, ce palais de 1000 pièces, les caméras qui tournent. Alors elle dit et c'est tout. Elle s'assoit sur le divan à côté. Il a beau faire 4 mètres de large, c'est un strapontin. Les deux autres présidents ne lui demandent pas d'aller leur chercher un café, mais c'est tout comme. Cette scène n'est pas un accident. Elle a été préméditée. Le protocole sert à mettre le respect en scène, ou bien le mépris. Recep Tayyip Erdogan sait très bien qu'il y a 2 têtes à l'exécutif européen et qu'il faut prévoir 2 chaises. Il a remis la femme à sa place. De côté, un peu en dessous. La vidéo enchante les islamistes, les nationalistes, son électorat.
Charles Michel a mal réagi.
Qui connaît Charles Michel, en dehors de la station de métro qui porte ce nom ? Charles Michel est belge, politicien, franc-maçon. C'est un fils à papa, président du Parti réformateur comme son père, mais plus jeune. Ministre d'État comme son père et même Premier ministre. Le père a fini commissaire européen, le fils président du Conseil européen. Angela Merkel et Emmanuel Macron l'ont parrainé, c'est l'enfant caché du couple franco-allemand. Un président du Conseil européen sert de maître de cérémonie. Avec la pandémie, c'est un emploi fictif. Alors comme l'ambitieux s'ennuie, il déteste Ursula von der Leyen et veut à tout prix la supplanter. C'est pourquoi il s'est laissé piéger en prenant le fauteuil au lieu d'en exiger un autre. Ce n'est pas un manque d'éducation, mais une faute politique que commet ce pignouf. Ursula von der Leyen a perdu la partie de chaise musicale, mais Charles Michel a perdu tout honneur en aidant Erdogan à humilier une femme.
L'Europe, dites-vous, ne sort pas grandie de l'affaire ?
Ben, les Russes viennent de ridiculiser le haut-commissaire qui leur faisait la leçon. Les Britanniques refusent de considérer les bureaux de l'Union européenne à Londres comme une ambassade. Et avec le piège d'Erdogan, c'est la 3e fois que le monde alentour montre le peu de respect qu'il porte aux institutions européennes. Et quand on regarde la vidéo, on se dit que le monde n'a pas entièrement tort.
Vincent Hervouet, le regard international sur Europe 1 tous les matins, 7h20. Dans un instant... L'édito sport, Virginie Philpin, tout autre chose.
Il y a des matchs de football qui ont tout pour se faire une place dans l'imaginaire collectif. Et la victoire du PSG sur le terrain du Bayern Munich en est un.
Juste avant votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Philpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Paris Saint-Germain est allé battre le Bayern Munich 3-2 hier soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une vraie performance chez le tenant du titre. Et pour vous, Virginie, ce match a tout pour devenir un mythe dans l'histoire parisienne ?
Il était une fois, une soirée printanière d'avril où la neige tombait à gros flocons et enveloppait un match de football dans un manteau romantique. Vous vous imaginez raconter ça à vos petits-enfants au coin du feu dans quelques années ?
Cet après-midi ?
Oui, exactement. Un stade vide, un terrain glissant, on aurait presque pu se croire début janvier quand les joueurs rentrent de la trêve des confiseurs pour disputer la Coupe de France. Mais la comparaison s'arrête là. Le décor est planté et le scénario n'a rien à lui envier. Plier sans rompre, c'était la devise du PSG hier soir. Chahuté, dominé par le Bayern Munich qui a tiré 31 fois au but contre 6 seulement pour le PSG. Ah oui, mais les Parisiens ont leur figure du sauveur, Keylor Navas, le gardien de but dont les gants attirent le ballon comme des aimants. Lui aussi alimente le fantasme. Hein. Sans lui, combien de buts aurait pris le Paris Saint-Germain ? Vous savez, les questions sans réponse font parfois basculer une rencontre du côté lumineux de la force. Quand je vous dis que tout y est pour que ce match devienne un mythe, il y a aussi l'image du capitaine Courage, Marquinhos blessé, prêt à sortir, qui prend le temps de marquer un but sur une offrande de Neymar, avant d'aller grimacer de douleur sur le banc. Le sens du sacrifice, ça fait aussi partie des
guides. Oui, ils étaient en train de dire qu'il allait sortir et puis il a marqué.
Bah voilà.
Et puis il y a bien sûr
les trucs à faire.
Bien sûr les magiciens que sont Kylian Mbappé et Neymar.
Alors Neymar avait laissé Mr Hyde à Paris pour faire place au Dr Jekyll. Hein. Hier matin, on disait Neymar, c'est maintenant ou jamais. Bah c'était donc maintenant, avec un régal de passes décisives. La figure du joueur agaçant transformé en magicien. On devrait avoir l'habitude, mais c'est quand même surprenant à chaque fois ce pile ou face du Brésilien. Kylian Mbappé, lui, n'a qu'un visage dans les matchs qui compte cette saison, celui du serial buteur. 3 buts à Barcelone et 2 hier à Munich. Ceux qui critiquaient son efficacité dans les grands rendez-vous en sont pour leurs frais. Hein, et l'aura de l'attaquant grimpe aussi vite que sa cote sur le marché. Il y a les magiciens, mais il y a aussi tous les autres. Si cette victoire est mythique, c'est aussi parce que l'équipe parisienne a été un peu bricolée avec ce qui restait disponible dans le vestiaire. Des blessures et un virus avant le match, des blessures pendant. C'est le symbole de cette saison pandémique sans fin qui use les corps et les âmes. On souffre, on n'a aucune certitude. Et il reste 5 jours pour espérer terminer l'histoire par « ils vécurent heureux en demi-finale ». Mais bon, ça on verra.
On va attendre, mais on va profiter de ces 5 jours en attendant Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. Merci Virginie. 7h25, tous les matins, juste après l'édito sport, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Quand Virginie est pour vous, je sais, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, c'est-à-dire évidemment, une personne ou un objet d'une extrême valeur. D'où vient cette expression ?
Alors j'imagine que ça a un rapport direct avec les yeux, avec la pupille même.
C'est exactement cela. Au XIIe siècle, on qualifiait la pupille de prunelle, le diminutif de prune. Du nom de cette petite prune sauvage, fruit du prunellier. Au siècle suivant, on utilisait l'expression « aimer plus que son œil ». Au XIVe siècle, on disait « soigner quelque chose comme la prunelle de son œil ». Est apparue également l'expression « jouer de la prunelle » quand on faisait des œillades, faire de l'œil si vous préférez. Ce qui compte, c'est la valeur que l'on donne aux choses. La pupille, c'est la petite fille souvent orpheline dont il fallait s'occuper. Et en Tunisie, un proverbe dit « Notoufimamou inaya, pardon pour la prononciation, mais ça signifie « je range ce que vous me confiez dans la prunelle de mes yeux » comme pour dire qu'on en prendra le plus grand soin.
Oui, mais dans la prunelle, ça fait mal.
Mais ça fait mal, oui. À dire vrai, l'expression est bien plus ancienne. Témoin le livre de Zacharie, datant de 600 ans avant Jésus-Christ, où le prophète annonce un Dieu de compassion en disant « car ainsi parle le Seigneur de l'univers, lui dont la gloire m'a envoyé aux nations qui vous dépouillèrent. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » Mais finissons plutôt sur une touche moins religieuse, avec Victor Hugo qui disait que « une âme peut être opérée de l'athéisme comme une prunelle de la cataracte ». Voilà de quoi méditer.
On va méditer jusqu'à 16h. On vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit la Vénus de Milo, qui ne laisse personne de marbre, Sarah Bartman, que l'on appelait tristement pour se moquer la Vénus autantote, et la tenniswoman Vénus Williams. Leur point commun ? Oh, il est facile aujourd'hui. De vénérable Vénus au programme.
À tout à l'heure, 16h. Et à 7h27, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous, bien sûr, pour la météo.
Oui, vous avez donné l'heure, mais bientôt, ce sera l'heure du bilan pour tous nos amis jardiniers, arboriculteurs, agriculteurs qui vont aller parcourir leurs champs en se disant « bon sang, bonsoir, mais quels sont les dégâts occasionnés par ce gel ?» Parce que effectivement, le gel est le dernier de cette série, aujourd'hui avec moins 6 à Grenoble. En ce moment, moins 5 du côté de Vichy, Nevers, Romorantin, Roanne, moins 2 à Mulhouse, moins 1 à Lyon, 2 à Toulouse, 3 à Brest, 5 à Paris, ce sont les températures du petit matin, mais c'est le dernier jour dès demain, les températures passeront au-dessus de 0 degré, et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir, à la mi-journée, comme les masses d'air sont en train de bouger, elles passent du nord au sud, et vous allez voir maintenant le vent du sud arriver, et cette masse d'air va nous apporter de la douceur. Cet après-midi, nous aurons des valeurs de 12 à 22 degrés, ça ne fait que commencer. Donc, le bilan sera fait par vous dans la journée, et vous saurez si vos champs, vos massifs ont souffert ou pas. Le ciel sera décidément très bleu aujourd'hui. Oui, quelques nuages près, mais enfin, je détaillerai tout ça tout à l'heure. Dans l'ensemble, il faut dire qu'il fera beau. Les températures donc seront positives et demain sera une journée de transition avant la pluie de samedi à dimanche.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est presque 7h30.
Et c'est l'une des bonnes nouvelles du jour. En plus d'être actif pendant 6 mois, le vaccin Pfizer serait aussi efficace contre le variant sud-africain du virus. Dans ce journal, des femmes de ménage qui vont pouvoir se reconvertir en aides-soignantes. Les partis politiques qui doivent proposer d'ici ce soir leur solution pour maintenir les élections régionales en juin. Et puis le début d'une chasse au trésor historique des deux côtés de la Manche. Valeur du butin, 750 000 euros.
Juste après ce journal, le tête-à-tête Europe Matin avec Françoise Laborde, journaliste, auteur du livre Les Indésirables, les enfants oubliés de la République aux éditions Michelon. L'édito politique, c'est avec Nicolas Bétou.
On va parler du débat sur la fin de vie ou comment bâcler un sujet de fond en faisant de la petite politique politicienne.
Et puis Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Ce matin sur Europe 1, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et décidément, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Les derniers doutes sur son efficacité contre le variant sud-africain du virus viennent d'être levés, Victor Dolande. Selon des données récentes, il assurerait bien une immunité aux patients qui l'ont contracté.
Oui, un essai clinique a été mené en Afrique du Sud, 800 participants recrutés dans deux groupes différents. Pendant que le premier recevait le sérum Pfizer, le deuxième, lui, avait un placebo. Au total, 9 cas de Covid, tous dans le groupe placebo, ce qui indique une efficacité du vaccin à 100%, même s'il faudra réaliser des études à plus grande échelle pour confirmer ces données. Pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondor, cette étude est très encourageante.
Données immunologiques dont on dispose montrent que même s'il y avait une baisse de l'activité neutralisante, cette baisse était beaucoup moins conséquente qu'avec d'autres vaccins et laisser espérer une efficacité de ce vaccin contre ces variants.
Et ce n'est pas fini, la Rolls des vaccins anti-Covid resterait aussi efficace à 91% 6 mois après la deuxième injection. Et dans une dernière étude menée auprès de 2000 adolescents de 12 à 15 ans, le sérum Pfizer fait un carton plein, 100% d'efficacité. Des données particulièrement intéressantes. Pour le moment, la vaccination des plus jeunes n'est pas encore envisagée, mais elle pourrait le devenir dans les prochains mois pour obtenir une immunité collective plus importante.
Merci Victor Dolande. Et autre ambiance pour le vaccin AstraZeneca. L'Agence européenne du médicament reconnaît qu'il y a bien un lien entre son injection et quelques cas très rares de thrombose. Mais la balance bénéfice-risque reste en faveur du vaccin.
Quel est le rapport entre De Richbourg, société de services de propreté, et le groupe de maisons de retraite Korian ? À première vue, aucun. Et pourtant, une cinquantaine d'agentes de nettoyage de chez De Richbourg vont suivre une formation d'aide-soignante.
Et tout cela grâce au dispositif Transco lancé par les pouvoirs publics. En fait, c'est un peu le principe des vases communicants. D'un côté, vous avez une entreprise dont les postes sont menacés. De l'autre, une activité en pleine croissance, mais qui peine à recruter. Maud Descamps.
C'est vraiment une opportunité en fait, c'est pour ça que j'ai sauté sous l'occasion.
Christelle, agent d'entretien chez De Richbourg depuis 7 ans, n'a pas hésité une seconde quand son employeur lui a proposé de suivre une formation pour devenir aide-soignante. Cette jeune femme de 32 ans y a tout de suite vu les nouvelles perspectives qui s'offraient à elle.
D'avoir une nouvelle expérience, d'avoir un nouveau diplôme aussi, et puis de changer de voie carrément, quoi. Enfin, de voir autre chose.
Au terme de 14 mois de formation, un emploi à temps plein au sein du groupe de maisons de retraite Korian, un changement de vie radical pour ces travailleuses peu qualifiées, comme le souligne Malika Bouchioua, directrice des ressources humaines chez De Richbourg.
On va accompagner des salariés pour avoir une meilleure qualification, pour avoir un diplôme d'État et pour avoir un travail à temps plein et pour avoir de surcroît un emploi dans un secteur porteur.
Un secteur porteur est bien plus rémunérateur pour ces salariés qui passeront d'un salaire de 800 euros en moyenne à 2000 euros brut une fois leur diplôme en poche.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron fera face au cadre dirigeant de l'État tout à l'heure pour parler de la réforme de la haute fonction publique. Selon les informations d'Europe 1, le président devrait notamment annoncer la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le chef de l'État s'attaquera aussi à la réforme des carrières. On y revient dans le journal de 8h.
La semaine prochaine, députés et sénateurs débattront du maintien des élections départementales et régionales. Pour l'instant, elles sont toujours prévues les 13 et 20 juin prochains.
Avant
Avant ça, les différents partis doivent rendre leur avis au Premier ministre d'ici ce soir, car si à ce stade, la quasi-totalité des formations politiques s'est dite favorable au maintien des scrutins, encore faut-il les organiser, et là, c'est la foire aux idées. Aurélie Herbemont.
Du bon sens et de la souplesse. Voilà ce que préconise l'Association des départements pour la campagne. Dans les contributions envoyées à Matignon, beaucoup réclament que la règle des 10 km pour se déplacer fasse l'objet de dérogations pour les candidats et qu'ils puissent organiser des réunions à un peu plus de 6 avec des masques. Histoire que cette campagne ne passe pas sous les radars, les Insoumis demandent 3 débats télévisés dans chaque région et 1 débat par canton, pendant que le PS souhaite plus de pages dans les professions de foi envoyées aux électeurs. Les idées affluent aussi pour les jours de vote. Vaccins ou tests PCR négatifs pour ceux qui tiennent les bureaux ont la cote. L'association des petites villes suggère qu'on puisse voter jusqu'à 20h sur tout le territoire et pourquoi pas dehors. LR préfère l'option des purificateurs d'air. Le gouvernement n'a plus qu'à choisir ce qui lui semble faisable ou pas.
Aurélie Herbemont, débat prévu dans l'hémicycle les 13 et 14 avril prochains. Verra-t-on bientôt le basque, l'occitan, le breton enseigné dans toutes les écoles françaises? La question doit être débattue à l'Assemblée aujourd'hui avec l'examen du projet de loi sur la promotion des langues régionales porté par le député breton Paul Molac. Aujourd'hui, 170 000 élèves français en étudient une.
Décidément, le retour de l'école à la maison, à distance, a du mal à s'installer après les bugs de mardi. Encore quelques dysfonctionnements hier d'ailleurs. Le parquet de Paris ouvre une enquête après une série de cyberattaques contre la plateforme du CNED.
Oui, c'est une perte de temps pour les élèves. Alors ce matin sur Europe 1, on vous propose un moyen de rattraper ce temps avec un jeu vidéo. Non, ne partez pas, c'est un jeu vidéo éducatif. Powers, c'est son nom. Et le concept a l'air de séduire, comme l'a constaté Clément Le Saffre, mais cette fois, ce n'est pas lui qui était derrière l'écran.
16-11-5.
À défaut de pouvoir aller à l'école, Mila, 10 ans, joue sur l'ordinateur familial, un petit jeu qui mélange calcul mental et course d'obstacles sur l'air de la flûte enchantée de Mozart.
C'est cool la musique. Par contre, je sais pas ça. J'ai déjà perdu.
Le hall des épreuves, c'est l'un des exercices ludiques de Powers, un jeu vidéo d'aventure dans un monde médiéval où l'on apprend les maths, le français, les langues étrangères. Et Mila a vraiment l'impression de progresser.
Ces calculs-là, en fait, ils sont faciles quand tu les poses lentement. J'apprends à faire des calculs vite.
Et entre l'école et le jeu, tu préfères quoi?
En fait, j'aime beaucoup les deux parce qu'à l'école, parfois, on fait des exercices qui sont assez bien. Et ici, j'aime beaucoup aussi parce que du coup, tu t'amuses beaucoup en même temps que tu apprends.
Pas fan des jeux vidéo, Christophe, le papa, est lui aussi convaincu par Powers.
Ça nous permet aussi de voir comment ils apprennent, sur quel domaine ils progressent le plus, quel est le domaine qui les intéresse le plus aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à l'école, en fait.
En 2 mois, 8000 enfants ont déjà joué à Powers. Avec une originalité, le prix est libre. Chacun décide du montant de son abonnement de 0 à 10 euros par mois.
C'est original de choisir le prix jusqu'à 10 euros par mois.
Je pense que ça doit marcher.
Peut-être que votre enfant peut vous rapporter encore un peu plus s'il participe à cette chasse au trésor qui démarre aujourd'hui.
Et le trésor de l'entente cordiale, c'est le titre d'un livre qui renferme 9 énigmes à résoudre pour mettre la main sur le butin. Un coffret d'une valeur de 750 000 euros. Et c'est une valeur aussi historique, effectivement, puisqu'il s'agit du vrai coffret remis par Édouard VII au président français Émile Loubet pour symboliser l'entente cordiale entre la Grande-Bretagne et la France en 1904.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
750 000 euros. Ça fait un petit peu rêver, 750 000 euros. Comment est-ce qu'on peut gagner?
Avec de l'astuce et beaucoup de patience. Vous voulez essayer? Prends la première énigme. Alors à chaque fois, une image sur la page de droite, un texte à gauche à décrypter. Je lis, concentrez-vous. Au commencement étaient les jumeaux célestes. Néhéma la créatrice et Caguluan le destructeur. Voilà, ça vous parle?
Il faut
y passer du temps, il faut faire attention aux moindres détails. Vous voyez par exemple, il y a certaines lettres en gras là. Ça pourrait être un point de départ. Il y en a 9 comme ça des énigmes. Mais pour la partie française seulement. C'est une chasse au trésor franco-britannique. En France, les énigmes permettent de déterrer la moitié d'une géode. L'autre moitié est au Royaume-Uni. Et quand on a les deux, il faut aller voir Michel Becker, l'organisateur.
Ces deux morceaux de géode assemblés viennent s'insérer dans un anneau de clé. Et le fait de rentrer cette géode dans l'anneau de la clé permet de rendre la clé fonctionnelle et de lui faire ouvrir un grand coffre transparent à l'intérieur duquel se trouve le fameux coffret d'or.
Michel Becker qu'on entend là, c'est aussi l'un des organisateurs de la chouette d'or.
Oui, une statue de chouette en or d'une valeur de 150 000 euros. Elle n'a jamais été trouvée depuis 1993, la date de lancement. Il existe encore des chouetteurs et des chouetteuses qui la cherchent. C'est le cas de Tina Deli. Elle a commencé en 96 et elle ne lâche pas. Elle a déjà fait 2 tentatives avec sa pelle.
Honnêtement, j'y suis allée beaucoup plus en fait pour me rassurer. J'avais pas réellement d'endroit où creuser, donc j'ai creusé un peu au pif. J'ai pas creusé très profond. C'est ben voilà, on fait un trou, il y a rien et on recommence quoi.
Il n'y a pas non plus de date de fin pour cette chasse, le coffret d'or. On est donc parti sans doute encore pour plusieurs années, voire dizaines d'années de chasse.
Ah bah allez, c'est parti.
Nicolas Caro, simplement préciser aussi que le trésor de l'entente cordiale, c'est un très bel objet aussi.
C'est un très, très beau livre.
Vous l'avez apporté en studio, vous avez bien fait, parce que je vous le rends quand même.
Merci,
que...
merci.
Vous allez tricher sinon on vous voit.
Parce qu'il y avait les réponses. Non. Et la version avec réponse, on la vend. Merci Nicolas Caro et merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h39.
Europe 1, Mathieu Béliard.
La sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa sur Europe 1. Elle vient de s'illustrer au Sénat justement au sujet de la loi séparatisme. Elle affirme que c'est une forme d'acharnement contre les musulmans et ce matin, elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15. Tout de suite, l'enfance, la protection de l'enfance. Et vous allez reconnaître sa voix en studio avec nous dans un instant, la journaliste Françoise Laborde qui publie un livre coup de gueule, un appel à mieux protéger les enfants de violences intrafamiliales, de violences sexuelles aussi. Et c'est le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h41. Au cœur d'une nouvelle semaine d'école à distance, vous le savez, encore au début d'une nouvelle période de confinement, entre guillemets. Et alors qu'on a souligné la menace pour les enfants victimes de violences, qu'a-t-on appris en un an ? Autre chose, les violences sexuelles sur mineurs, la libération de la parole sur l'inceste, la question de la protection de l'enfance. La journaliste Françoise Laborde s'en saisit, elle publie « Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République » aux éditions Michelon.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Françoise Laborde.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être en direct avec nous
merci
ce matin sur Europe 1. Ce livre, c'est un coup de gueule ?
Ah oui, absolument. C'est un coup de gueule parce que on a aujourd'hui 308 000 enfants qui sont pris en charge par les services sociaux, hein, au sens large, et que ces 308 000 enfants, l'État s'en occupe mal. Pas comme il faut, et ça crée des situations épouvantables, et ça crée des enfants qui sont perdus, et ça crée un déni de justice pour plein d'enfants, et ça détruit des familles entières, des mères qui souffrent, des pères, et ces enfants-là dont on ne s'occupe pas assez.
On est dans une période particulière depuis le début de cette pandémie. Il y a un an, il y a une hausse des hospitalisations d'enfants pour violences physiques, hausse de 50%. Cette nouvelle période de confinement dans laquelle nous sommes, ça exige, dites-vous, une vigilance particulière.
Oui, parce que on sait très bien que ces enfants sont renvoyés dans des familles qui sont dysfonctionnelles ou maltraitantes et que par définition ça va pas bien se passer et qu'il y a un facteur d'énervement qui touche tout le monde et qui touche encore plus ces familles dysfonctionnelles. On demande en plus aux parents de faire l'école à la maison alors que parfois ils ont même pas les capacités de faire cette école, donc ils sont eux-mêmes en situation d'échec et parfois ils font payer à leurs enfants leurs propres échecs. Donc on voit bien que là, on crée une espèce de huis clos terrible entre les parents et les enfants et il n'y a plus personne qui intervient. Je rappelle que lors du premier confinement, vous avez mentionné la hausse des hospitalisations pour blessures physiques des enfants. Il y a eu aussi le numéro d'urgence, le 113, où les appels ont explosé. Le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas. Et c'est ça qui est une honte. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux aujourd'hui, ils ne sont pas prioritaires pour être vaccinés. Alors que franchement...
Vous demandez que les travailleurs sociaux qui travaillent auprès d'enfants parfois en difficulté, pas seulement mais vous demandez est-ce qu'il soit prioritaire pour la vaccination ?
Évidemment, il n'y a aucune raison qu'on dise qu'il faut vacciner les instits, les professionnels de santé et pas ceux qui vont dans les familles voir comment ça se passe.
Il faut bien comprendre que ces travailleurs sociaux, le réseau d'associations, les structures municipales, les écoles, les associations sportives, tout ce qui ferme en ce moment, ouais. C'est un réseau de veille par rapport à ces enfants. Qu'est-ce qu'on a appris en un an, Françoise Laborde ?
Justement, on n'a pas appris grand-chose, c'est ça qui est bien dommage. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de relevé de données chiffrées, de signes de maltraitance, parce que voilà, on est incapable de le faire, ou en tout cas le gouvernement n'a pas la volonté de le faire. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que plus on enferme les enfants, plus il y a des cas de maltraitance, et moins il y a en effet de signalement, parce que les petits clignotants, on les voit où ? À l'école, dans les centres sportifs, auprès des bénévoles, etc. À partir du moment où les enfants sont enfermés avec les famille, eh bien, il y a de la violence, il y a de l'inceste, il y a des coups, il y a de la torture, il y a tout ce qu'on sait et qu'on voit.
Il y a du secret. Alors, la question que vous posez finalement, c'est est-ce que la République protège ses enfants ? C'est la question. Je voudrais qu'on parle du texte de loi qui renforce la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Mmh. Ce texte revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il y a des points qui font débat et on va en parler, des choses dont il faut qu'on parle. Mais est-ce que ce texte, à vos yeux, il répond aux questions posées par la libération de la parole, le MeToo inceste, le livre de Camille Kouchner notamment ? On s'est saisi du problème ?
Non, alors, je vais vous dire, il y a deux choses, moi qui me révoltent dans cette affaire. C'est que le ministre Dupond-Moretti, avec beaucoup d'emphase et de spectaculaire dont il est coutumier, dit avant 18 ans, l'inceste sera condamné. Et puis après, en loose day, il introduit un amendement pour dire oui, mais c'est seulement les personnes qui ont autorité. Donc ça veut dire que c'est pas tous les cas d'inceste. Ça veut dire que les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, tonton, le nouveau mari, etc., ils sont pas forcément concernés. Donc ça, c'est vraiment un mensonge d'État qui est absolument insupportable.
Un mensonge d'État.
Un mensonge. Bah oui, quand le ministre arrive et dit je vous promets que, et puis que derrière il fait le contraire, c'est un mensonge d'État. Même chose pour les mineurs de moins de 15 ans, qui devraient être complètement protégés. On dit oui, mais en même temps, si elles sont violées par quelqu'un qui a 18 ou 19 ans, faudra quand même qu'elles expliquent.
Parlons-en, Françoise Laborde. C'est la fameuse, je voudrais juste que ce soit bien clair pour nos auditeurs, c'est la fameuse clause. Je ne sais pas si le nom est bien choisi, qu'on appelle clause Roméo et Juliette.
On l'appelle Roméo et Juliette pour mettre du romantisme dans ce qui est juste du viol. Voilà.
Alors, cette clause, elle est censée ne pas criminaliser une relation entre deux adolescents qui auraient entre 13 et 17 ans. L'un devient majeur, il y a 5 ans d'écart et on ne va pas le poursuivre. Mais vous dites que ça protège des très jeunes adultes, 18-20 ans, qui auraient des rapports avec des mineurs.
Mais il faut regarder les chiffres, tout simplement. Le nombre de viols, les viols de jeunes mineurs, de jeunes adolescentes qui ont 13-14 ans, c'est essentiellement des jeunes qui ont en effet 18-19-20 ans. C'est ça la réalité des choses.
Mais le fait, par exemple, que sous les 15 ans, un mineur est considéré d'office comme non consentant, ça
absolument.
C'est quand même une avancée.
Oui, mais il faut pas qu'il y ait d'exception à la règle.
Il faut pas d'exception.
Parce que à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, on nous dit, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, si un jeune homme de 18 ans allait devant les tribunaux, mais enfin, c'est pas non plus une clause automatique, c'est pas un guichet automatique. Il y a un juge qui fait son boulot. 1% des viols donnent lieu à condamnation. 1%. Et là, on est en train de s'arracher les cheveux. Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Taquet disent, ah oui, mais si par hasard un jeune homme de 18 ans était condamné.
Ah, c'est important. Mais... Quand vous dites qu'il y a 1% des viols qui donnent lieu à une condamnation, ce que je comprends dans le sous-entendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de trop de condamnations, mais de pas assez.
Bah, évidemment. Le problème, c'est les victimes. Sauf qu'on est dans un pays où on ne se préoccupe pas des victimes, on se préoccupe toujours des violeurs. Et c'est ça la problématique, et c'est ça la vérité, et c'est comme ça que ce gouvernement fonctionne à chaque fois. Et c'est pour ça que cette loi, telle qu'elle est, on espère très sincèrement, tous les collectifs qui agissent auprès des jeunes, que le 14, lorsqu'elle repasse à nouveau à l'Assemblée, on va arriver à quelques corrections. Je n'y crois pas du tout, mais en tout cas, on se bat pour ça.
Une question que cela pose aussi, parce qu'une conséquence de cette loi... Notamment, pas seulement, mais vous demandez combien d'enfants vont se retrouver placés et vous insistez, l'aide sociale à l'enfance n'est pas calibrée déjà, on le sait.
Non mais tout le système est en train d'exploser parce que il y a pas assez de foyers d'accueil, parce que les capacités sont à 120% à peu
c'est
près.
Un enfant, je me permets juste 2-3 statistiques, un enfant sur 50 en France, 340 000 enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, ce sont les enfants qu'on dit placés. Ce système-là, on le sait, il est en train de craquer, selon les départements, mais de craquer.
Alors, la décentralisation fait que d'un département à l'autre, il y a de grandes injustices. Normalement, les enfants, l'idéal pour un enfant quand il est placé, ce serait d'être dans une famille d'accueil plutôt qu'un foyer. Sauf que pour devenir famille d'accueil, les critères sont extrêmement compliqués. C'est des critères des années 60, genre la mère de famille ne doit pas travailler, elle doit déjà avoir des enfants, elle doit etc. etc. Donc, il y a de moins en moins de familles d'accueil, elles sont de plus en plus âgées. Donc on va avoir un vrai problème de, entre guillemets, de ressources, de candidats à être famille d'accueil. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ces enfants, on les abandonne, on ne s'en occupe pas. Les jeunes adolescents, les mineurs, les presque adultes, ils sont placés dans des hôtels de transit dans des conditions qui sont innommables.
Un SDF sur 4 est un ancien enfant de l'ASE.
Absolument.
Faut l'avoir en tête.
Donc on a aujourd'hui cette situation sur laquelle il faut absolument se réveiller. Et c'est pour ça qu'on les appelle les indésirables, parce que personne ne veut en entendre parler et c'est une honte française.
Alors pour terminer, je voudrais lire un propos introductif de votre livre, Françoise Laborde. Les enfants ne votent pas, les enfants ne manifestent pas, ils n'ont pas des milliers d'amis sur Facebook et quand ils ont survécu au traumatisme de leur enfance, ils préfèrent les oublier et cacher ce qu'ils ont dû endurer. Ce sont les indésirables, les oubliés de la République. Ça donne votre livre, alors si vous cherchez une bouffée d'optimisme, c'est pas tout de suite, hein,
non,
c'est pas dans ce livre. Ça donne le sentiment que... On ignore et quand ça se passe mal, on fait un peu de bruit puis on met la poussière sous le tapis.
Oui, et ce qui est très intéressant, vous avez cité l'histoire de l'affaire de Camille Kouchner. On pourrait parler de Vanessa Springora avant. Camille Kouchner qui dénonce Olivier Duhamel, Vanessa Springora qui dénonce Gabriel Matzneff. Pourquoi on les a entendues ces femmes? Parce qu'elles sont adultes, parce qu'elles ont une position sociale et que leur voix porte. Mais les enfants, personne ne les écoute, personne ne les entend. Des Camille Kouchner, il y en a plein. Des Vanessa Springora, il y en a plein. Alors on dit libérer la parole, mais la parole, elle se libère. Le problème, c'est que les juges n'entendent pas. Le problème, c'est que le gouvernement n'entend pas. Alors après, on dit, ah oui, mais il faut pas mettre la justice sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est pas bien, je suis d'accord, c'est pas bien. Mais si la justice fonctionnait, si les juges prenaient leurs responsabilités, si les tribunaux condamnaient vraiment les violeurs et les agresseurs, il n'y aurait pas ces règlements de compte sur les réseaux sociaux.
C'est ce que me disait aussi dans ce studio la fille de Richard Berry, en l'occurrence, quand elle précisait la parole s'est libérée, mais l'écoute a changé aussi. Espérons-le, en tout cas. Françoise Laborde, merci beaucoup.
Merci à vous, Mathieu.
Ça sort cette semaine, Les Indésirables, Enfants maltraités, Les oubliés de la République, c'est aux éditions Michelon. Merci Françoise Laborde d'être venue nous en parler ce matin sur Europe 1, 7h51.
Merci beaucoup.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique Nicolas Bétou, c'est dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
L'édito politique, vous revenez sur la proposition de loi sur la fin de vie qui sera débattue cet après-midi à l'Assemblée.
Oui, enfin débattue, c'est vite dit, hein, poignée d'heures consacrées à un sujet, l'euthanasie ou le suicide programmé, qui devrait plutôt mériter des jours et des jours de débat dans l'ensemble du pays. Même remarque sur le titre de cette proposition de loi, parler de garantir une fin de vie libre et choisie, c'est utiliser un vocabulaire qui banalise volontairement la question, alors que le sujet du choix de sa mort est tellement profond, tellement grave et complexe qu'il ne devrait pas être bâclé en quelques centaines de minutes de discours. Il mérite un vrai débat.
Alors, ce qui veut dire que le débat de cet après-midi, pour vous, ça n'en est pas vraiment un.
Exactement. Exactement. En réalité, la finalité de ce débat, c'est de faire un coup politique. Cette proposition de loi a été utilisée par quelques centaines de députés En Marche comme un marqueur politique. Beaucoup de parlementaires sont en effet convaincus qu'il faut, à un an de la présidentielle, envoyer un signal de gauche pour rééquilibrer un bilan supposé versé trop à droite. Or, les sujets de société sont parfaitement calibrés pour ça. Militer pour l'extension de l'IVG, pour la PMA pour toutes ou pour l'euthanasie, dans l'esprit de ces parlementaires, c'est être progressiste, alors banco. Ni pas, et ils ont même été rejoints. Or, c'est vraiment ce qui va se passer. Le créneau qu'ils ont choisi pour faire passer leur texte n'avait aucune chance de succès. D'abord parce qu'une partie de la majorité et du gouvernement, dont le Premier ministre, est contre. Avec pour certains un argument imparable, parler de faciliter la mort, alors que les hôpitaux sont submergés de malades qu'on essaye au contraire d'aider à survivre, c'est vraiment incongru. Mieux, Emmanuel Macron ne soutient pas cette proposition de loi. Le pays n'est pas mûr, semble-t-il penser, et il se satisfait donc de voir que l'initiative des parlementaires va aller directement dans le mur.
Parce qu'elle ne sera pas adoptée, ça on en est sûr ?
Aucune chance, non. Parce qu'une escouade de députés LR, un peu filous sur les bords, a bloqué le débat en déposant plus de 2000 amendements, ce qui rend leur examen mécaniquement impossible dans le temps imparti. Voilà. À trop vouloir forcer un débat d'ampleur nationale pour l'expédier au Parlement, on s'expose à plus rusé que soi. C'est, voyez-vous, le 5e anniversaire cette semaine de La République en marche. Eh bien, on voit que ce mouvement a encore de gros progrès à faire en matière de cohérence interne et en maîtrise des rouages de la vie politique.
Merci, votre édito politique tous les matins à 7h50. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Et c'est Philippe de Villiers qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Béliard. J'entendais monsieur Bétou parler de progressisme. Eh bien, le féminisme, c'est être progressiste. Quand j'entends madame Benbassa, j'apprends que madame Benbassa viendra tout à l'heure critiquer l'excellente loi contre séparatisme islamique chez votre collègue femelle, Mme Mabrouk. Mais je suis scandalisé, M. Béliard. C'est de la complaisance envers les islamistes radicaux qui veulent voiler nos femmes et empêcher nos filles d'étudier. Alors je le dis, moi je suis féministe, vous le savez. Que Mme Benbassa, qui se prétend écologiste, qu'elle se mêle, qu'elle s'inspire de Barbara Pompili, qui, elle, est une vraie écologiste. La preuve, hier, elle était à Top Chef, voilà, dans la cuisine. Ça, c'est très bien. Et qu'elle laisse les hommes s'occuper de féminisme. Voilà.
Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 tout à l'heure pour la revue de presse, bien sûr, et à 8h15, Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, au micro de Sonia Mabrouk. A tout de suite sur Europe 1 pour le journal de 8h. 7h58 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo, Laurent.
Ça y est, enfin, la froidure recule. Les températures actuelles se situent entre moins 4 et plus 4 degrés.
Fait chaud. Pardon, entre moins 4 et plus 4, c'est vrai que...
On va dire que c'est moins froid et des moins et des moins.
Canicule.
Et cet après-midi, nous attendons des valeurs de 10 à 22 degrés. 10 degrés à Cherbourg et à Fécamp, où l'on a tant pêché la morue. 11 degrés à Nancy et Lille, 12 à Caen et Colmar, 13 à Paris et Brest, 14 à Rennes, 15 à Lyon et à Clisson, en Loire-Atlantique. Son château est là à vous faire peur. 16 à Marseille et Clermont-Ferrand, 17 à Niort, 19 à Toulouse, 20 à Bordeaux et 22 degrés à Biarritz. Voilà, les températures remontent. Le ciel sera clément sur la plupart des régions de France. Or, bien sûr, ça n'est pas un ciel dégagé comme ces jours derniers. Ce sera, disons, un beau temps nuageux tel que nous aimons le qualifier. Demain, vendredi, ça commence à se gâter par les régions de l'Ouest. Parce que, de toute manière, on a besoin de la pluie. La pluie sera là samedi et dimanche. Et ensuite, chers amis, ne lâchez pas vos doudounes. Le froid revient la semaine prochaine, j'en suis presque certain.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Un excellent réveil à toutes et à tous.